verset 1er. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12. Et à partir du verset 1er, où il nous est dit, c'est un récit que nous connaissons bien, c'est la délivrance de Pierre qui a été arrêté. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc le faire comparaître pour le faire mourir, comme Jacques. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient leur prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Et elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant fait de la main signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Il est question ici de l'apôtre Jacques, et non pas Jacques le frère de Jean, qui avait, nous l'avons vu, été mis à mort. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Voilà, nous connaissons bien ce récit de l'Écriture. C'est le récit d'une glorieuse délivrance, une réponse à la prière d'une certaine manière, et puis l'action de la souveraineté de Dieu qui a envoyé un ange, croyant dans l'existence des anges. L'Écriture nous en parle. Elle nous dit que ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Voilà, c'est la définition que nous donne l'Épître aux Hébreux des anges. À plusieurs reprises, nous voyons les anges intervenir dans l'Écriture. Bien entendu, ces manifestations angéliques se sont multipliées lors de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole faite chair. Il était normal, en quelque sorte, que les anges envoyés sur la terre pour exercer un ministère annoncent, soient présents, agissent pour manifester ce plan glorieux de rédemption. Nous nous souvenons également, n'est-ce pas, de cette parole de Jésus-Christ qui faisait référence à l'échelle de Jacob, n'est-ce pas, qui touchait aux cieux, et cette mention des anges de Dieu, n'est-ce pas, qui font, d'une certaine manière, la liaison entre la terre et le ciel. Et nous croyons que, nous ne recherchons pas nécessairement, mais nous croyons que dans sa souveraineté, Dieu peut envoyer des anges pour bénir son Église, pour la protéger, pour venir au secours, parfois, d'un de ses enfants dans la difficulté. Tenez, pendant que je vous dis ces choses, il me revient à l'esprit ce témoignage authentique. Je crois que ça s'est passé à Tahiti, lorsque l'Évangile y était prêché. Un jour, un employé qui travaillait, alors était dans la sidérurgie, je ne sais pas, il y avait une fournaise, là, une, un appareil chauffé à blanc. Et ce chrétien, suite à une mauvaise manipulation, y est tombé. Et de telle sorte que tous ceux qui l'ont vu se sont dit, ça y est, c'est la fin. Et il a été comme propulsé à l'extérieur et s'en est sorti sans une égratignure ni une brûlure. Et l'Église a rendu grâce à Dieu. Il y avait cette conviction qu'un ange était intervenu. Je me souviens aussi de ce témoignage d'un homme qui est aujourd'hui serviteur de Dieu. Il faisait référence à ce qui était arrivé un jour alors qu'il était enfant, il n'était pas converti, ses parents étaient chrétiens, et régulièrement lisait la Bible avec lui, avait un moment de culte familial, et il se trouvait dans le salon, et la fenêtre était ouverte. Voilà, ça a marqué son esprit d'enfant. Et pendant que... Alors, est-ce que c'était pendant le moment de prière ou après, je ne sais plus, d'un seul coup, cet enfant s'est senti bien. Il se sentait bien, il sentait quelque chose là dans cette pièce, quelque chose de bienfaisant, quelque chose de divin, de surnaturel. Et il a simplement dit à ses parents, qu'est-ce qu'on est bien d'un seul coup. Et ses parents lui ont dit, oui, nous aussi, nous en faisons l'expérience. Et la conviction est venue là dans le cœur de chacun de ces membres de famille présents, ils étaient trois, que c'est une visitation angélique. Voyez. Et ça a marqué ce jeune homme, cet enfant, au point que, aujourd'hui encore, il s'en souvient et il en parle. Voilà les merveilles de Dieu. Un ange envoyé, nous en revenons à notre récit, pour secourir l'apôtre Pierre alors qu'on s'apprêtait à le faire mourir. Le roi Hérode l'avait donc fait garder dans cette prison sous la garde de 4 escouades de soldats, de 4 soldats chacune. Une autre remarque en introduction, béni soit Dieu pour la prière, pour les exaucements à la prière, pour la foi, qui est un don de Dieu, mais béni soit Dieu avant tout pour sa souveraineté. Parce que si l'exaucement de nos prières dépendait de, je dirais, la perfection de notre foi, eh bien nous ne serions pas exaucés. Vous voyez, cette Église, elle priait, très sincèrement, bien entendu, avec ferveur, on n'en doute pas, pour l'apôtre Pierre, mais voilà que lorsque Dieu envoie son ange pour le délivrer, Pierre se présente à l'Église et il ne le croit pas. Vous voyez, la foi, nous avons besoin que Dieu l'éduque, et parfois Dieu la suscite en nous. Il y a des moments où on sent que nous avons une foi particulière devant certaines situations. C'est un don de Dieu, mais c'est le fait que nous prions au nom de Jésus-Christ qui rend l'Église et la prière de l'Église efficace. C'est parce que nous prions non pas en notre nom, non pas en nous fondant sur quoi que ce soit que nous sommes ou que nous ayons, même notre foi. Mais c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous approchons de Dieu le Père, et c'est en son nom qu'il nous exauce. Béni soit Dieu. Et puis, voilà, le sujet de ma réflexion ce matin, c'est le surnaturel et le naturel. Pas si ça vous a frappé dans ce récit, mais il y a cette glorieuse manifestation du surnaturel divin dans la manière dont il délivre son serviteur Pierre. Puis il y a aussi, tout au long de ce récit de délivrance, eh bien, ce récit est jalonné du naturel. Par exemple, l'ange est envoyé vers Pierre et il le réveille, une lumière là, surnaturelle brille dans la prison, il le frappe au côté. Les chaînes tombent des mains de Pierre, ça c'est surnaturel quand même. Mais l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, enfile ton manteau, voilà, les portes vont s'ouvrir, surnaturellement. Voilà, il passe les gardes qui restent profondément assoupis. Tout ça c'est la main de Dieu, il y a le surnaturel divin qui agite abondamment. Mais Pierre a enfilé lui-même son manteau, il a mis ses sandales. Et voilà que revenu à lui-même, au verset 11, bien, nous voyons que Pierre se dit, je vois de manière certaine que Dieu a envoyé son ange. Il avait du mal lui-même à y croire pendant un moment. Et il nous a dit, après avoir réfléchi, il se dirige vers la maison de Marie, là où il va trouver des personnes assemblées. C'est la mère de Jean, surnommée Marc, peut-être l'évangéliste. Et il va là trouver du secours. Donc après avoir été surnaturellement délivré, on aurait pu s'attendre à ce que Dieu le dirige surnaturellement vers quelque lieu, pas du tout. Mais il le laisse là, Pierre, à sa réflexion. Donc le surnaturel divin et le naturel se manifestent dans ce récit et dans cette délivrance. Nous croyons dans la vie de l'esprit, nous croyons dans le surnaturel de Dieu, croyons que Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit et est capable d'accomplir les plus glorieux miracles. Nous croyons également, en tant que mouvement de Pentecôte, dans la réalité des dons spirituels, que ce soit les dons d'inspiration, les dons de révélation, les dons de puissance. Et nous croyons que nous ne pouvons pas, dans ces domaines, ni limiter Dieu, ni l'enfermer, même dans nos réflexions, nos raisonnements, parfois même dans nos catégories. Dieu ne se contredira jamais, il ne contredira jamais sa parole. Mais croyons que la manifestation de la gloire de Dieu, de sa puissance, de son surnaturel, dépasse nos raisonnements humains. Voilà, c'est ça que nous croyons. Cela dit, l'abondance même de la vie de Dieu ne doit pas nous faire oublier que Dieu se manifeste aussi parfois dans les choses naturelles. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à adorer Dieu pour le surnaturel, mais pour ce qu'il est. Nous ne sommes pas appelés à rechercher le surnaturel pour le surnaturel, mais seulement dans la mesure où il contribue au développement de l'œuvre de Dieu et de ses desseins. Et puis, nous sommes aussi appelés à prendre conscience que si Dieu se manifeste parfois de manière glorieusement surnaturelle, il le fait aussi, je dirais, normalement, de manière naturelle. Vous voyez, la nature, les cycles de la nature, c'est Dieu qui les a créés. Ça fait partie de la création, ça fait partie des lois, des principes que Dieu a établis en créant toutes choses par sa parole puissante. C'est vrai ou pas? C'est Dieu qui a créé ces choses. Et parfois, eh bien, Dieu se manifeste dans leur action. Dieu peut choisir de les suspendre, ces principes, de les transcender, toutes ces lois, pour intervenir de manière qui confond l'homme. Parfois, il agit également dans l'opération des principes naturels et il n'en faut pas moins reconnaître là sa main. Alors, j'ai relevé quatre domaines dans lesquels c'est vrai. Premièrement, dans le domaine des interventions divines. Eh oui, il y a des interventions divines qui sont surnaturelles et il y en a d'autres qui laissent une place abondante au naturel. Alors, j'ai pris la peine quand même de sélectionner quelques passages de la Bible pour que nous soyons bien convaincus de cette réalité. Tenez, prenez ce court passage dans le premier livre de Samuel, au chapitre 23 et au verset 8. Livre de Samuel, chapitre 23 et au verset 8. Voilà, c'est un petit peu après que David a rassemblé autour de lui, dans la caverne d'Adullam, alors qu'il fuit le roi Saül, bien des gens qui l'ont rejoint, du peuple d'Israël. Et il nous a dit, Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. Saül avait formé le dessein insensé, inspiré par l'ennemi de notre âme, par le diable lui-même, de mettre la main sur David et d'effacer son nom de dessous la terre pour qu'il ne devienne pas roi. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, « Apporte l'éphod !» Et David dit, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il contre comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » David dit encore, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül ?» Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Alors David se leva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé, suspendit sa marche. Voilà, nous avons pris la peine de lire simplement ce récit parce que nous y voyons que David, ayant consulté les fautes, va recevoir à deux reprises des réponses extrêmement précises de la part de Dieu qui va dévoiler l'avenir. Il va montrer surnaturellement ce qui doit se produire. Mais nous relevons que David et ses hommes vont se sauver, non pas dans un lieu que Dieu leur désigne surnaturellement, mais où ils peuvent. Vous voyez un petit peu à nouveau cette alliance entre le surnaturel divin et le naturel qui se manifeste dans la réflexion de David. Un autre texte, Marc chapitre 5, et au verset 35. Marc, chapitre 5, verset 35. Un récit de l'évangile que nous connaissons bien. Marc, chapitre 5, verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» C'est la fille de Jaïrus qui est venue trouver le Seigneur. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques, qu'ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant, il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Voilà, que pensez-vous de cette précision cette jeune fille, la fille de Jaïrus, est ressuscitée glorieusement suite à une parole du maître. Et on aurait pu penser que, voilà, étant ressuscitée, elle allait être en pleine forme. Plus besoin de manger, n'est-ce pas? Puisque la puissance divine vient d'agir dans le corps de cette jeune fille, dans tout son être, non. Première chose que le Seigneur dit, donnez-lui à manger. Vous voyez, cette manifestation du surnaturel divin n'exclut pas l'opération des lois naturelles. Elle avait besoin de se remettre. Donnez-lui à manger. C'est le maître qui le dit. Voilà, on pourrait citer d'autres exemples. On pourrait aussi parler du livre d'Esther, où l'on voit de multiples interventions divines, n'est-ce pas, dans le livre d'Esther. Cette délivrance glorieuse du peuple d'Israël contre les mauvais desseins de Haman. Voilà, c'est une succession d'interventions providentielles, mais il n'y a proprement parlé aucun miracle. Le nom même de Dieu n'apparaît pas une seule fois dans ce livre d'Esther, c'est ce qui le caractérise. Et c'est quand même Dieu qui est agi, qui est intervenu. Donc retenons bien ces choses, c'est important pour nous de le comprendre. Si Dieu n'intervient pas surnaturellement, c'est qu'il a ses raisons. Il y a des périodes même où on voit que Dieu, dans la vie d'Israël, est fort peu intervenu surnaturellement. Regardez ces longues années du ministère de Jérémie, par exemple. Mais même ces périodes-là, eh bien, ça n'enlève rien à la souveraineté de Dieu et au fait qu'il continue à agir. Voyez, parce que à la fin de cette période, à l'issue de cette longue période, dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, on voit que ce prophète-là qui a été déporté à Babylone, il est sur les rives du fleuve Kébar. Et alors, bien sûr, pour la plupart des Juifs, c'était terrible, ça, cette déportation, parce que se disait, Dieu ne parlera plus. On n'est plus sur la terre d'Israël. On n'est plus là, dans le temple. Le temple lui-même a eu ses murailles démolies, ravagées par le feu. Dieu ne parlera plus. Pensez-vous, Dieu parle quand il veut. Et voilà que sur les rives du fleuve Kébar, alors qu'il se trouve là avec quelques-uns de la déportation, Ézéchiel dit « Je vois les cieux s'ouvrir ». Et Dieu va lui parler. Dieu va lui d'abord se révéler à lui dans une vision extraordinaire, une vision glorieuse, telle qu'il y en a peu dans l'Ancien Testament. Et là, entre autres choses, il va voir des roues pleines d'yeux. Ah, qu'est-ce que c'était que ces roues pleines d'yeux? Ça nous parle de Dieu qui voit tout. Et de la providence et de la roue de la vie, n'est-ce pas, qui tourne, non pas aveuglément, mais selon la direction, la vision, la prescience, selon ce que Dieu voit. Voilà ce que ça voulait dire à Ézéchiel. Et Ézéchiel va apprendre à le peuple, ceux d'entre eux qui étaient bien disposés, vont apprendre par Ézéchiel que même sur les rives du fleuve Kébar, même dans le pays de la déportation, même quand tout semble nous dire que Dieu n'agit pas, bien c'est quand même lui qui règne, et c'est lui qui dirige l'histoire des hommes et de chacun en particulier. Surnaturellement, parfois, naturellement, d'autres fois. Alors, ce qu'on retient quand même, c'est que quand Dieu agit surnaturellement, ben oui, rendons-lui grâce, adorons-le, prosternons-nous devant lui et tremblons devant sa puissance glorieuse. Quand Dieu agit naturellement, sachons aussi le reconnaître pour lui être reconnaissant. Le temps me manque, on aurait pu citer bien d'autres choses. Paul, qui a été l'objet de glorieuses délivrances, est l'instrument de nombreux miracles. Un jour à Damas, a dû se sauver. Là, on l'a descendu dans une corbeille, le long de la muraille, pour qu'il échappe à ses adversaires. Une délivrance naturelle. Voilà, mais lui-même, il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé cette corbeille. Voilà, ça change aussi, recourir parfois aux moyens naturels. J'ai entendu un jour M. Boudéen, je ne sais pas si vous avez connu M. Boudéen, c'était un évangéliste, un homme à qui Dieu avait donné des dons de guérison incontestés, incontestables. Toute la région de la Normandie a été marquée par son ministère. D'ailleurs, quand il se déplaçait en France ou ailleurs, régulièrement, il y avait des guérisons spectaculaires. Des articles même de journaux ont été écrits parce que les gens ne pouvaient que constater des miracles glorieux, des estropiés qui retrouvaient l'usage de leurs membres, des aveugles qui ont été guéris. Et j'ai entendu un jour M. Boudéen, là, dans la même pièce que moi, il prêchait, j'étais à quelques mètres de lui, et il disait, vous savez, dans le domaine de la guérison divine, attendons-nous à Dieu, mais ne négligeons pas la médecine. Et il a même dit, vous voyez, quand on, dans une maison, bien, on prend l'escalier, c'est le chemin normal, il disait, voilà, le médecin, c'est ça. Quand la maison est en feu, il faut sauter par la fenêtre. Ça, c'est la foi que l'on place dans le Seigneur quand nous avons besoin d'une intervention surnaturelle. Il n'y a pas moyen de faire différemment. Mais, vous voyez, l'équilibre de la foi, ce n'est pas une bonne chose. Quand un chrétien, sous prétexte qu'il est chrétien, est malade et refuse tout recours aux médicaments, non, ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon. Parce que parfois, on a connu des excès dans ce domaine qui ont fait en sorte que l'état de santé de certains chrétiens qui refusaient de se soigner s'est parfois détérioré, parfois jusqu'à la mort. Et c'est pas du tout ce que Dieu veut, ça, vous voyez. Regardez Luc, le médecin bien-aimé. Et le Seigneur lui-même, dans une allégorie, va dire ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc dans ce domaine-là aussi, l'œuvre surnaturelle de Dieu qui est capable de guérir, et béni soit son nom quand il le fait, à l'extérieur comme dans l'Église, mais aussi l'équilibre qui consiste à savoir avoir recours à des moyens naturels et même à rendre grâce à Dieu pour l'issue favorable de certains recours naturels. On entend parfois cette prière, « Seigneur, bénis la main du chirurgien quand il y a une intervention. » Est-ce que le Seigneur peut diriger la main d'un chirurgien? Ben oui. Oui. Le Seigneur peut permettre qu'il y ait de glorieuses délivrances surnaturelles, mais aussi de glorieuses issues lorsque des moyens naturels sont employés. C'est quand même sa providence qui agit. C'est quand même sa providence qui agit. Voilà, donc dans les interventions divines. Dans notre service chrétien, un deuxième domaine, je vais aller beaucoup plus vite, dans lequel se manifeste le surnaturel divin et son naturel. Nous voyons Paul, très souvent, cet homme au ministère particulier, c'était un apôtre, eh bien, être l'objet de conduites surnaturelles, divines, mais jamais ça n'a exclu le bon sens dans sa démarche. On le voit très souvent réfléchir dans ses projets de déplacement. Il avait pour stratégie de se rendre en premier lieu, toujours dans les synagogues. Pourquoi ? Parce qu'il savait que là seraient assemblés des gens, des juifs, pas seulement, mais aussi des craignants Dieu, des gens qui étaient convaincus qu'il y avait un seul Dieu, que l'Ancien Testament était vraiment une parole inspirée. Pourquoi est-ce qu'il y allait ? Parce que c'est là qu'il avait le plus de chances, entre guillemets, de trouver déjà un auditoire attentif. Et c'est pour ça qu'il y allait. Alors parfois, Dieu a donné du succès, parfois non. Ça, c'est des choses qu'il ne maîtrisait pas. Et la manière dont il s'adressait aux gens aussi procédait de sa réflexion, il était capable d'entendre la voix de Dieu. Paul était capable de chambouler tous ses plans quand Dieu le dirigeait autrement que ce qu'il avait prévu, mais toujours conduit par la réflexion, par le bon sens, par une saine réflexion. Et voilà, dans notre service, nous aussi, nous devons savoir que nous pouvons compter parfois sur les interventions surnaturelles de Dieu. Ça ne remet aucunement en question le fait que on a le droit de réfléchir, et même le devoir de le faire pour notre service chrétien et pour notre vie chrétienne. Voilà, je pense à ce témoignage d'une chrétienne, pas du tout ici, pas du tout, mais qui disait, voilà, je vais prier pour savoir ce que Dieu veut que je fasse à manger à midi. Mais non, ça c'est du déséquilibre. Mais oui, c'est du déséquilibre. Il y a des décisions qui relèvent simplement du bon sens et puis qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec une intervention divine. Et c'est bon pour nous de savoir faire la distinction, de savoir faire la différence. Hein? Voilà, je ne sais pas ce que vous allez manger à midi, mais vous avez le droit de choisir. Hein? Sans vous... Bon, on comprend bien les choses. Dans la vie de l'Église, là aussi, manifestation surnaturelle et aussi intervention de Dieu, parfois de manière très naturelle. Voilà, parfois, dans la vie de l'Église, des orientations ont été prises dans la vie de l'Église primitive suite à une manifestation surnaturelle, indéniable, de la puissance de Dieu. Par exemple, quand, dans un moment de jeûne et de prière, Dieu va dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça va être le début de la première tournée missionnaire et la face du monde est changée par cette première tournée missionnaire où l'Évangile va commencer à se répandre sur la terre connue d'alors. C'est une direction surnaturelle, l'Esprit le savait. Il était essentiel que ces deux hommes que Dieu avait mis à part soient envoyés. Et Dieu va le dire, là, par un don spirituel. Béni soit Dieu pour les dons spirituels. Amen. Dieu est capable, dans un culte, d'apporter par la bouche de l'un ou de l'autre une parole qui peut bouleverser l'existence de quelqu'un, bouleverser la vie de l'Église elle-même. Je me souviens dans cette église de Nancy où je me suis converti, où Dieu a permis que j'entende l'Évangile, son Évangile glorieux, de cette petite femme qui était, elle était médecin, mais ce n'est pas du tout ce qui est important, ça. Elle était petite, elle avait une toute petite voix. Et régulièrement, dans le culte, elle donnait une parole prophétique. Et voilà, un jour, il y avait dans l'auditoire un jeune homme qui avait mené une vie terrible, une vie de patachon. Et vraiment, c'était un jeune homme dissolu, mais Dieu l'aimait. Et la semaine qui avait précédé, il avait vécu une expérience bouleversante. Là, il avait appris la mort de quelqu'un, ça l'avait rempli de crainte. Et il se disait, je suis pas prêt pour l'éternité. Et là, personne ne le savait, mais toute la semaine, il avait pratiquement rien mangé. Il se tenait dans la prière, Seigneur, pardonne si tu existes. Voilà. Et là, il était présent dans le culte. Et après la Sainte Cène, après la prédication, eh bien cette chrétienne s'est mise à prophétiser. Et la prophétie, c'était quelque chose comme ça. Dieu a entendu ta prière. Il te pardonne. Tu es libre maintenant. Oh, ce jeune homme, ça l'a touché en plein cœur. Il savait que c'était pour lui. Il n'en a pas douté une seule seconde, parce que quand Dieu nous parle, là, on le sent, on le sait. Et ayant reçu cette parole comme une parole divine, ce jeune homme était à nouveau là le dimanche après-midi, quand il est sorti de la réunion, il était dans la voiture avec des membres de famille, et dans un endroit précis, là, c'est comme si l'intérieur de la voiture se remplissait d'une présence bienfaisante et extraordinaire, c'était Jésus qui lui révélait qu'il pardonnait ses péchés, qu'il devenait son sauveur, et là, sans entendre de voix, sans avoir de vision, ce jeune homme a compris que Dieu l'appellerait à être un instrument pour en sauver d'autres et pour prêcher son glorieux évangile. Vous voyez, et ça s'est fait, entre autres, au moyen de cette prophétie, de cette petite voix. Et bien des années plus tard, le jeune homme en question a parlé à nouveau avec cette chrétienne et lui a dit, vous vous souvenez peut-être tel jour, telle parole que vous avez apportée? La chrétienne lui a dit, non, je ne me souviens pas. Et le jeune homme lui a expliqué tout ça. Et cette chrétienne a dit, mais ça m'encourage ce que tu me dis, parce que parfois, j'ai eu des moments où je doutais, je me posais la question, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Est-ce que ton don est authentique? Oui, c'était une confirmation glorieuse. Donc nous croyons aux dons spirituels. Et c'est important qu'on y aspire, comme c'est dit. Parce que la volonté de Dieu, c'est que chacun prophétise. Non pas pour attirer l'attention sur nous. Non pas pour que, lorsque nous apportons quelques paroles prophétiques, ça nous apporte là quelque admiration. Hein, c'est pas du tout ça, on n'a rien compris si on pense ça. Mais pour avancer l'œuvre de Dieu, pour édifier quelqu'un, pour l'exhorter, pour le consoler, pour l'édification du corps de Christ, c'est écrit. Hein, pareil pour la diversité des langues, l'interprétation des langues, mais surtout la prophétie. Surtout la prophétie, c'est écrit dans la première épître aux Corinthiens. mais aussi, dans la vie de l'Église, parfois, Dieu œuvre de manière naturelle. Et un grand bien est parfois réalisé de manière naturelle. Alors comment ? Au travers une bonne attitude, une poignée de main, l'accueil de quelqu'un, un homme de Dieu qui est ensuite devenu un prédicateur efficace de l'Évangile. Dis-moi ce qui m'a marqué la première fois que je suis venu à l'Église. Dans une Église évangélique, ce n'est pas la prédication que je n'ai pas vraiment comprise, ce n'est pas les chants, mais c'est la chaleur avec laquelle ces chrétiens m'ont salué et accueilli. Eh oui, vous voyez, de manière naturelle, Dieu est capable de parler aussi. Regardez ceux qui parlent, même ceux qui prêchent. Paul dit qu'il prêchait parfois par révélation. Ben oui, c'était un homme à qui Dieu avait beaucoup donné, notamment dans ce domaine, mais aussi par connaissance. Et ça voulait dire ça, qu'il prêchait parfois parce qu'il connaissait les choses, et ça l'amenait à prêcher en fonction de ce qu'il savait, et ça faisait quand même du bien. Par prophétie, ça veut dire que parfois dans la prédication de Paul, il avait conscience que Dieu agissait et que l'action de Dieu exhortait, communiquait une énergie particulière là, à l'Église, et puis parfois il disait par doctrine. Ce n'était pas surnaturel, ça. Il prêchait ce qu'il savait. Vous savez qu'il avait une solide formation rabbinique. Il avait été élevé au pied de Gamaliel. Et parfois, il se disait, voilà, l'Église a besoin qu'on insiste sur tel point pour que leur connaissance, là, ne se laisse pas facilement ébranler. Et voilà, le surnaturel et le naturel, c'était indispensable. Et puis parfois, dans des détails matériels, c'est pour ça que c'est important. C'est une grande richesse d'avoir des frères qui, dans les églises, sont capables, même matériellement, d'intervenir. C'est important. Je vous assure que Dieu y prête importance. Un jour, Spurgeon, ce grand prédicateur de l'Évangile, qui a vu des délivrances glorieuses, qui a vu des milliers, littéralement, de personnes se convertir par sa prédication, attirait l'attention de ses auditeurs sur les petites choses et l'importance des choses matérielles. Il disait... Le Saint-Esprit n'aime pas les réunions de prière où l'on a froid aux pieds. Eh oui ? Eh oui, donc même les choses matérielles, là, ça mérite qu'on s'y arrête, elles contribuent à la vie de l'Église, je ne vais pas dire au même titre, mais tout autant dans un autre domaine que parfois certaines manifestations surnaturelles. Et je termine, un dernier point, dans notre vie personnelle. Hein, on a parlé donc des interventions divines, de notre service chrétien, dans la vie de l'Église et dans notre vie personnelle aussi. Dieu agit parfois de manière naturelle, parfois de manière surnaturelle, parfois de manière surnaturelle et parfois de manière naturelle. Paul, qui a été, nous l'avons dit, un instrument pour accomplir bien des choses et parfois voir de glorieux miracles se réaliser, était aussi un homme sensé, équilibré. Nous l'avons dit, il était capable de réfléchir, mais il était capable aussi d'un grand savoir-vivre. L'avez-vous remarqué ? Il savait se conduire. Il savait se conduire devant les plus humbles. Il savait se conduire même devant les rois. On le voit devant les rois. Le roi Agrippa. Paul va lui parler. Et il sait, il connaît l'étiquette et il va l'utiliser. C'est pas parce qu'il est chrétien, c'est pas parce qu'il est apôtre qu'il s'estime dispensé de ces choses. Pas du tout. Il a pris soin de s'instruire, Paul. Il est capable de parler aux juifs, bien sûr, mais aussi aux païens. Hein ? Il est capable de citer là certains auteurs, certains poètes, même païens. Il n'avait pas négligé toutes ces choses sous prétexte qu'il était apôtre et qu'il étudiait la loi. Non. Et nous aussi, un peu de culture, parfois, ça nous fait du bien. Et ça nous permet parfois même d'avoir des ouvertures et des entrées auprès des hommes de ce monde. Et puis, dans les situations, les orientations professionnelles, familiales, parfois Dieu est capable de nous conduire surnaturellement. Parfois non, ça se fait naturellement. Si nous n'avons pas une révélation relativement à un changement d'emploi, par exemple, ou bien à telle ouverture professionnelle, ça ne veut pas dire qu'il faut la refuser. Non ? Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que pour des changements comme ça importants, il ne faut pas se poser la question, prier. Mais ce psaume nous dit « Heureux ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur, des chemins tout tracés. C'est-à-dire que parfois, voilà, le simple fait de marcher paisiblement, bien, voilà, on trouvera on trouvera naturellement, et parfois même dans notre cœur, des chemins. C'est vrai aussi dans le domaine du mariage. Bien sûr, il faut chercher Dieu. Bien sûr, un chrétien ne va pas unir sa vie, c'est une décision tellement importante, au premier venu. Mais il n'y a pas besoin nécessairement d'une révélation divine, même pour ça, dans son cœur, il trouvera des chemins tout tracés. Et puis, une toute dernière pensée, même dans le domaine de l'école de Dieu, dans la manière dont Dieu nous apprend à évoluer, où il nous transforme, bien ça se fait parfois surnaturellement et parfois naturellement. Même des non-chrétiens apprennent de la vie, et ce n'est pas interdit à un chrétien d'apprendre aussi des leçons de la vie. La différence, bien sûr, c'est que nous voyons dans les circonstances de notre vie la main de Dieu. Et parfois, ces circonstances de la vie qui nous enseignent, on sait que ça vient de Dieu. Christ disait, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Et regardez, pour que le cep de vigne produise un fruit abondant, qu'est-ce qu'il faut ? Ben oui, il faut un cep. Alors, c'est vrai, pour progresser, pour faire des progrès véritables, il faut être attaché à Christ. Puis il y a l'œuvre du Père qui est monde, qui conduit toutes choses. Il est souverain dans toutes ses voies. Mais il n'y a pas que ça. Pour que le raisin produise du fruit, il faut du soleil, il faut un peu de pluie parfois aussi, il faut du vent, il faut le cycle naturel des saisons. Et c'est à travers les dispensations parfois naturelles de sa providence que Dieu nous enseigne. Et dans la mesure où nous savons y prêter attention, alors oui, attachés à Christ, recevant de lui la sève de la vie qui ne se trouve qu'en lui et qu'en lui seul, eh bien nous sommes effectivement un bon terrain pour que le Père céleste, le vigneron, nous apprenne, nous enseigne, nous émonde, nous façonne. Regardez Joseph, voilà, le temps nous manque pour parler de lui et combien il a appris de ce qui lui est arrivé. Nous aussi, de manière surnaturelle, mais aussi naturelle, sachons recevoir tous les bienfaits de Dieu. Reconnaissons-le dans ses œuvres, rendons-lui grâce en toute chose, réjouissons-nous dans l'espérance de la vie éternelle, parce que c'est en vue de cette échéance glorieuse qu'il nous prépare, que son nom soit béni. Merci Seigneur pour ta parole, pour ta bonté.